Sud Radio.
Seul. Contre tous. Philippe David.
On ne doit pas siffler les autorités lors d'un hommage national. C'est la théorie que je défends aujourd'hui dans Seul contre tous. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Manuel Valls, qu'on soutienne ou qu'on ne soutienne pas François Hollande, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce gouvernement. Hier, Manuel Valls, conspué à Nice en marge du dernier jour de deuil national et de l'hommage rendu aux victimes de l'attentat de la promenade des Anglais. Eh bien non, pour moi, ce n'était pas digne parce qu'un hommage national, alors qu'il y a eu 84 morts, des dizaines de blessés, dont certains luttent encore contre la mort dans les hôpitaux de Nice et de la région, eh bien ça ne méritait que deux choses, le recueillement et le respect. Alors oui, pour moi, on ne doit pas siffler les autorités lors d'un hommage national, puisque l'union nationale doit primer lorsque la nation vit des moments dramatiques. Face à moi, deux adversaires de poids. Gilbert Collard, député Front National du Gard, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine et membre du bureau politique du Front National, et Serge Federbuch, président du Parti des Libertés et auteur du livre « La marche des Lemmings » ou « La deuxième mort de Charlie » publié aux éditions XL. Que vous soyez d'accord ou pas avec moi, vous connaissez le principe. Le 0826-300-300 ou la 12 voix de Caroline se fera un plaisir de vous donner la parole et voter sur sudradio.fr.
Seul.
Contre tous.
Contre tous.
Sud Radio.
Philippe David.
On ne doit pas siffler les autorités lors d'un hommage national comme cela s'est passé à Nice hier et comme cela s'était déjà passé à Nice le 15 juillet lors de la visite de François Hollande. Face à moi, Gilbert Collard, député Front National du Gard, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine et membre du bureau politique du Front National, et Serge Federbuch, président du Parti des Libertés et auteur du livre « La marche des Lemmings » ou « La deuxième mort de Charlie » publié aux éditions XL. Avant de donner la parole à mes invités, on va aller voir du côté de sudradio.fr faire ce que disent les internautes. Fabien Tacquart-Blanchin, bonjour.
Bonjour Philippe David. Eh bien, vous, chers auditeurs, vous n'êtes pas d'accord avec Philippe David. Vous pensez à 65% qu'il est d'une certaine façon normal d'avoir sifflé les autorités hier à Nice, aux alentours donc de la minute de silence pendant cet hommage national.
Merci beaucoup Fabien Tacquart-Blanchin. On va essayer d'inverser la tendance. Gilbert Collard, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. On ne vous présente plus, même si vous êtes député du Gard, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine et membre du bureau politique du Front National. Alors pour vous, il fallait conspuer Manuel Valls hier, comme il fallait conspuer François Hollande le 15 juillet, donc au lendemain de l'attentat, lorsqu'il s'est rendu à Nice.
Écoutez, d'abord, vous, dans votre présentation, vous commettez une erreur grave. Ah. Ce n'est pas la minute de silence qui a été sifflée. Elle a été respectée. Et je crois que c'est un point important parce que ça introduit une distinction.
Gilbert Collard, permettez-moi de vous couper. J'ai dit que Manuel Valls avait été sifflé, mais pas pendant la minute de silence.
Ah,
mais
par contre, c'est bien ce que j'avais
dit. J'ai dit qu'il avait été conspué, mais pas pendant la minute de silence.
Voilà,
ben, et vous avez entièrement raison.
Qu'on l'encadre. Parce que ça fait en soi une distinction entre le respect, l'hommage.
Dû.
Et ce que représente Emmanuel Valls. Peut-on interdire à un peuple qui a tant souffert et qui souffre encore de laisser s'exprimer par des sifflets sa réprobation? Mais il a le nombril à la place du cœur, Emmanuel Valls. Cet exutoire, il devrait le prendre comme un moyen pour ce peuple en souffrance d'évacuer sa colère. Il est le chef d'un gouvernement qui n'a rien fait, qui est à l'évidence responsable, puisque le président de la République a annoncé qu'il allait lever l'état d'urgence.
Le 14 juillet, lors de son allocution.
Puisque M. Cazeneuve se félicitait de sa réussite, que je félicite aussi, d'absence d'attentat pendant
l'Euro.
Hein. S'il se félicite d'un côté, il devrait se condamner de l'autre. Ce gouvernement joue vraiment avec le hasard. Et la réaction populaire, elle est éminemment respectable dans la mesure où la minute de silence a été respectée. Enfin, quand même, ne perdez pas de vue ce que le peuple niçois a subi.
Et une véritable tragédie.
On fait un procès parce qu'il y a eu des sifflets. Non, mais attendez, si un chef d'État un chef de gouvernement n'est pas capable d'endosser à un moment donné et de la prendre sur lui comme un fardeau la colère d'un peuple qui enterre ses morts, il faut qu'il aille faire autre chose.
Gilbert Collard, vous connaissez le principe de l'émission Seul contre tous, je n'ai pas un contradicteur, mais deux. Serge Federbuch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du Parti de la Liberté et auteur du livre La Marche des Lemmings ou La Deuxième Mort de Charlie, publié aux éditions XL. Bienvenue sur Sud Radio. Alors vous, vous pensez que on a bien remis, je veux dire, l'église au milieu du village, l'expression n'est pas la mieux choisie. Ce n'est pas la minute de silence qui a été sifflée,
c'est
Gilbert Collard l'a rappelé.
C'est
en marche, exactement, malheureusement. Pour vous, donc, c'était légitime hier de siffler Manuel Valls, comme il était légitime de siffler François Hollande le 15 juillet, parce qu'il faut rappeler que le lendemain de l'attentat, lorsque François Hollande s'est rendu à Nice, il a lui aussi été conspué.
Bah écoutez, Monsieur Valls comme Monsieur Hollande dans cette affaire sont d'une hypocrisie totale, mais ça de toute façon comme c'est une pratique de gouvernement constante chez eux, ça n'étonnera personne. Ils sont bien contents comme de temps en temps, il faut dire qu'effectivement les occasions sont rares, bon ils sont applaudis pour telle ou telle raison, hein, quand en fait François Hollande plastronnait dans les tribunes du stade Vélodrome je crois après la victoire de la France sur l'Allemagne, immédiatement la récupération était en marche. Alors bon, ils font de la politique, ils utilisent tous les moyens pour manipuler l'opinion, parce que c'est ça aussi qui choque les Français, c'est qu'ils savent bien que depuis Charlie Hebdo, il y a une manipulation de l'opinion, une récupération indigne de la part du gouvernement. Donc ils sont bien contents pour recevoir de temps en temps des fleurs. Mais quand leur incurie et leur incapacité à protéger la population, à prévenir ce genre d'attaque éclate au grand jour, eh bien là, il faudrait en fait ne rien dire, il faudrait se taire, et donc il faudrait passer soit de la louange, donc au silence. Mais non, ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est d'être responsable de ce qu'on fait et de payer le prix aussi de ses erreurs. Et ces erreurs, finalement, ce qui a éclaté et qui est sain sur la promenade des Anglais, ce qui a éclaté, c'est la colère des Français, pas seulement des Niçois. Je pense que si ça avait été ailleurs, ça aurait été la même chose.
Ça aurait été la même chose à Brest, à Strasbourg ou à Bayonne.
Absolument, absolument. Bon, et dire aussi que ce sont des... Moi, je suis pas au Front National, je vais rassurer tout de suite M. Collard, comme vos auditeurs, rassurer entre guillemets, mais enfin dire que ça, c'est une espèce de conspiration de militants du Front National. Bon, il suffit de voir les enregistrements pour se rendre compte que c'est faux. C'est une réaction, mais énorme et presque unanime de gens qui sont ulcérés. Ulcérés pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on leur ment. Après Charlie Hebdo, on a dissimulé sciemment et on a noyé dans une espèce de concorde nationale dans le « je suis Charlie », en fait, la responsabilité, la carence et la faillite des services de renseignement. Manuel Valls, hein, toujours nous expliquait 15 jours avant l'attentat de Charlie que la France était en état d'alerte maximum et on avait la plus grande cible, à savoir Charlie Hebdo, des djihadistes en Europe et peut-être au monde, qui étaient là gardés par un seul policier. Donc il y avait une faillite énorme. Les frères Kouachi ont déambulé pendant 2 jours avant, parce qu'ils ne se cachaient pas, d'être identifiés. Koulibaly, pendant ce temps-là, commettait ses massacres donc à l'épicerie cachère de la porte de Vincennes. Bon, ensuite, il y a eu d'autres meurtres. Hein, Aurélie Châtelain, un pauvre chef d'entreprise dont la tête a été décapitée, retrouvée. Et puis le paroxysme qu'on croyait être le paroxysme, que certains espéraient être le paroxysme du 13 novembre, avec quand même 130 morts. Ce sont les pires crimes politiques qu'a connu la France depuis la guerre d'Algérie. Et là, ça recommence après qu'à nouveau, on les a entendus plastronner. Ils font semblant d'agir, ils n'agissent pas parce qu'ils ne veulent pas s'attaquer aux causes. C'est ça le problème.
Serge Federbuch, je voudrais vous poser une question ainsi qu'à Gilbert Collard et faire réagir Gilbert Collard avant de donner la parole à un premier auditeur. Vous avez dit « Je suis Charlie ». Il y a une chose qui m'a marqué suite à ces attentats.
Moi, je ne l'ai pas dit.
Vous avez parlé de je suis Charlie dans vos propos. Quand il y a eu Charlie Hebdo, janvier 2015, je suis Charlie. Lorsqu'il y a eu les attentats de Paris, je suis Paris. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de je suis Nice. Comment est-ce que vous expliquez ça ?
Parce que le je suis Charlie, je suis Bataclan, etc., etc., en réalité, c'était des marionnettes. Derrière, il y avait « je soutiens le gouvernement et je me voile la face sur le problème de l'islam bigot et réactionnaire en France, qui est à l'origine de tout ça, et de la complaisance du gouvernement vis-à-vis de ce phénomène qui est profond, qui est durable et qui est mortel pour notre pays. » Donc, il y avait une récupération. Là, maintenant, les gens ont compris qu'ils étaient récupérés. Donc, c'est surtout « je ne veux plus être... » Ne pas dire « je suis Nice », ça veut dire « je ne veux plus être récupéré par ce pouvoir » de faillis et de menteurs, rien d'autre.
Gilbert Collard, vous avez entendu Serge Federbuch. Comment est-ce que vous avez la même explication que lui, tiens, pourquoi il n'y a pas de « je suis Nice » comme il y a eu des « je suis Paris »,« je suis Bataclan »,« je suis Charlie », etc.
Mais parce que ce gouvernement fonctionne sur une propagande binaire. Il est le bien et les autres sont le mal.
Vous voulez dire manichéenne ?
manichéenne. Il est dans une propagande qui consiste à récupérer l'événement pour créer autour de lui une espèce d'union sur les cercueils. Ça a marché une fois, ça a marché d'autres fois, ça ne marche plus parce que la propagande est usée, malgré les efforts de certains médias, on le voit, hein, qui essayent de prôner l'unité. Je suis français, c'est tout. Je suis français. Et toute personne qui sur le territoire est atteinte à travers la France. Or, ce gouvernement, quand il essaye d'organiser des manifestations autour d'un événement dramatique, essaye de récupérer une cohésion factice. Ils ont inventé la théorie propagandiste de la cohésion factice. Et quand d'un coup, cette théorie ne fonctionne plus parce qu'elle est sifflée finalement, ils sont désemparés parce que leur propagande d'État ne marche plus. Elle est arrivée à son terme. Et les gens le comprennent, ils se rendent bien compte qu'on a un chef d'État qui vient nous dire « je vais lever l'état d'urgence ».
Lors de son allocution du 14 juillet.
Dans son allocation du 14 juillet. Et après, on nous dit « on rétablit l'état d'urgence ». Mais enfin quand même, il n'y a même pas une sanction prise contre le préfet, co-organisateur avec la municipalité de Nice de cette manifestation. Les gens comprennent maintenant que ce gouvernement a usé et abusé du registre compassionnel pour nous endormir pendant que le terrorisme continuait d'agir. Je me permettrai de citer un simple fait. En juillet 2015, j'ai déposé une proposition de loi numéro 3006, pour être précis, ayant pour but de favoriser la lutte contre la propagande et les menées terroristes dans les lieux de culte. Proposition de loi aujourd'hui reprise, avec retard, par Nicolas Sarkozy. Personne ne m'a écouté. Personne n'a rien voulu faire. Et maintenant, on vient nous dire qu'on devrait acclamer ce gouvernement. Et quand j'entends un membre du gouvernement dire que les sifflets contre Valls, c'est quasiment une insulte contre les victimes, on est encore dans cette propagande. Ils s'approprient les victimes.
Gilbert
Ils ont un instrument de communication. C'est ignoble, c'est insoutenable.
Gilbert Collard, vous avez entendu Serge Federbuche, qui est président du Parti des Libertés, il l'a dit lui-même, pas membre du Front National, il a pris votre défense lorsqu'il a dit que hier les sifflets sur Manuel Valls, et vous avez d'ailleurs tweeté à ce sujet, n'étaient pas issus du Front National, contrairement à ce qu'ont affirmé certains.
Oui, tout à fait. D'abord, comment peut-on, à moins d'avoir l'oreille politicarde absolue, localiser le...
Dans savoir quel qui siffle et qui est encarté où en sifflant.
Enfin, quand même, c'est... Mais là encore, on touche la propagande. Il faut... ce gouvernement veut avoir un ennemi. Ce n'est pas l'État islamique, c'est le Front National. Chaque fois, alors qu'il y a 84 morts qui jonchent la chaussée, c'est beaucoup plus le Front National qui est attaqué que l'État islamique. C'est absolument insensé ce qu'ils font dans leur propagande. Alors que, encore ce matin en conférence de presse, j'appelais tout le monde, moi, à la retenue, au calme, au respect des uns et des autres, mais pas au respect de ceux qui nous amènent dans ce drame.
Gilbert Collard, on a un premier auditeur qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour tout le monde. Bonjour,
bienvenue sur Sud Radio.
Bonjour. Bonjour. Donc, Maître Collard, bonjour Monsieur Federbuche.
Nous vous écoutons.
Bonjour. Je suis effectivement tout à fait d'accord avec le fait qu'on puisse siffler des personnes comme ça, alors même effectivement dans une période d'hommage national. D'abord, la gauche ne s'est jamais privée de siffler toutes les personnes de droite, pas forcément dans des hommages nationaux, mais n'importe quand, n'importe où, tout le temps, ce qui était beaucoup moins vrai dans l'autre sens. Et ensuite, pourquoi ne pas siffler des gens qui sont coupables? Ils sont coupables de toutes les centaines de morts que nous avons eues ces derniers temps. Alors ce sont les derniers coupables, ce sont les derniers de 2015 et 2016. Mais ils répondent, ils suivent le chemin des 40 années de socialisme que nous venons de vivre. Je ne compte pas Jacques Chirac, qui est un ectoplasme qui est passé au-dessus de nous.
Et je vous laisse mettre de vos propos sur Jacques Chirac.
Un ectoplasme, c'est juste un genre de petit fantôme, un petit, vous voyez, c'est quelque chose, c'est propre hein, comme nom.
Voilà, oui,
au-dessus des termes. Et ensuite, ça a commencé, on va dire, avec Giscard. Alors, ce qu'il a permis le regroupement familial, qui a autorisé de fait la polygamie en France, et ensuite toutes les choses qu'a permis Mitterrand aux musulmans. Ce qui fait que les musulmans croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, n'importe là. Comment, en France, alors que on a réussi à contenir la religion catholique, la religion des catholiques, les protestants, etc., pour éviter qu'ils mettent une mainmise complète sur la société. Ça a été très, très important. Et donc maintenant, on se retrouve avec des personnes qui font ce qu'elles veulent comme elles veulent. On est dans une situation, je ne sais pas, mais peut-être irrattrapable.
Frédéric, vous permettez, les lois quand même sont les mêmes pour tout le monde, quelle que soit la confession, du moins théoriquement. Serge Federbuch, vous avez entendu Frédéric. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos ?
Moi, je pense qu'il met le doigt sur un problème de fond. Le problème de fond, c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt, hein. Le gros problème, évidemment, c'était que la récupération et les méthodes goguenardes de Hollande, bon, avec sa manif, par exemple, avec les chefs d'État, tout ça, ça ne marche plus. Et ça ne dissimule plus le problème de fond que la presse de gauche aussi. Il faut voir les éditos de Libé ou les partis pris de Plenel hier qui encore mettaient en cause pratiquement l'extrême droite dans ce qui s'est passé. Bon, ça ne marche, tout ça ne marche plus parce que le problème, c'est la présence d'une communauté musulmane, hein, il ne faut pas dire islamiste, etc., musulmane, de 7 à 10 ou 11 millions de personnes, bon, peu importe les chiffres, mais en tout cas très importante, qui développe de plus en plus des comportements communautaristes et de repli vis-à-vis du reste de la société. Voilà. Une fois que, effectivement, d'ailleurs c'était très intéressant de voir qu'à chaque attentat qu'il y a eu depuis 2015, ça a commencé après Charlie Hebdo, ensuite ça a été en novembre, et puis maintenant on le verra, j'en suis sûr, la faiblesse de l'État a conduit au phénomène paradoxal que le port du voile s'est répandu avec encore plus d'ostentation dans les rues, par une sorte de réaction bravache, vous voyez, parce qu'ils sentent une certaine manière de faiblesse dans la réaction non seulement du gouvernement d'ailleurs, mais de toute la société. Bon, il y a donc, c'est une communauté qui est travaillée par une propagande des frères musulmans, c'est pas que les salafistes, c'est des frères musulmans, une propagande bigote, rigoriste, qui entend progressivement faire triompher un islam réactionnaire.
Ouais. Serge Federbuch.
Et c'est ce phénomène de fond qui pose problème. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a capitulation, qu'il y a la pire des fautes de Hollande et de Valls. C'est à ce niveau-là, c'est quand on ne tape pas du poing sur la table vis-à-vis du port du voile à l'université ou dans les hôpitaux, quand on ne tape pas du poing sur la table vis-à-vis des revendications.
Serge Federbuch, on va continuer à en parler, mais là on doit faire une première courte pause.
Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David.
On ne doit pas siffler les autorités lors d'un hommage national. C'est la théorie que je défends aujourd'hui dans Seul contre tous, où j'ai face à moi Gilbert Collard, député Front National du Gard, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine, membre du bureau politique du Front National, et Serge Federbuch, président du Parti des Libertés et auteur du livre La Marche des Lemmings ou La Deuxième Mort de Charlie aux éditions XL. Gilbert Collard, vous avez entendu le premier auditeur qu'on a eu qui s'appelle Frédéric. Il y a quand même un truc qui me semble important dans ce qu'il a dit. Il dit, ouais, la gauche a souvent conspué les gens de droite, donc il n'y a pas de raison que gens de droite conspuent les gens de gauche. Si certains se comportent mal, on n'est peut-être pas obligé de se comporter mal nous aussi, non ?
Mais je crois qu'il faut arrêter dans un drame pareil qui densifie une émotion que seul un insensible peut ne pas comprendre. Il faut arrêter de faire le procès d'une réaction émotionnelle qui exprime dans un mélange difficile à analyser la souffrance, la colère, le deuil, le sentiment d'abandon. Voilà ce que c'est. Mais je rappellerai quand même pour mémoire que lorsque je suis intervenu à l'Assemblée nationale pour évoquer les menaces que l'État islamique fait peser sur le Front National, on a la vidéo. Les députés de gauche se sont marrés, ont sifflé, ont hué, et personne ne s'en est indigné. On était à l'intérieur du Parlement. Un député se levait pour demander au Premier ministre ce qu'il comptait faire pour assurer la protection d'hommes et de femmes menacés par l'État islamique. Et on a vu des députés socialistes faire le geste du violon, et rire, et huer. Et personne ne s'en est indigné, personne. Or, moi, j'avais rien à me reprocher. Et après, ils viennent donner des leçons, mais qu'ils commencent par se tenir bien à table avant de vouloir apprendre aux autres à bien nouer leurs serviettes. C'est eux qui ont introduit ce climat. quand vous pensez que il fut un temps où on ne nous serrait même pas la main dans les cérémonies officielles, où il y a encore des maires, et là, républicains, qui, lorsqu'ils prennent la parole, comme ce fut le cas à Saint-Gilles, ne la donnent pas aux députés, et ils donnent des leçons.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est que les gens qui ne sont pas tolérants envers vous, mais ce n'est pas le sujet du jour, ne sont pas seulement à gauche. Par contre, on a entendu dans ce qu'a dit Frédéric quelque chose qui m'a personnellement choqué. Il a dit que Hollande et Valls étaient responsables de l'attentat. On ne peut pas dire quand même que... Si on pouvait être dur sur un attentat, on pourrait peut-être être plus dur sur l'attentat du 13 novembre, parce qu'il y a eu un commando de très nombreux terroristes qui ont agi au Stade de France.
Alors écoutez, là je vais me permettre de vous
attendez, laissez-moi terminer.
Oui, je vous en prie, oui.
Qui ont attaqué, c'était un commando nombreux, le Stade de France, les terrasses des cafés, des restaurants, le Bataclan. Et là, on peut vraiment parler de faillite du renseignement et faillite des services de sécurité français. Par contre, une personne qui loue un camion et qui rentre dans la foule, c'est comme ce qui s'est passé hier au soir en Allemagne. Un type sort une hache d'un sac et commence à frapper les gens dans un train. On ne peut pas tout maîtriser non plus.
Mais d'abord, si ce type n'était pas entré en Allemagne, il n'aurait pas pu commettre cet acte criminel. D'abord et avant tout. Alors il serait peut-être bon aussi qu'on commence par ne pas prendre le risque d'accueillir tout le monde, y compris sous prétexte d'humanité, des assassins. Donc il y a une énorme réforme à faire de ce point de vue-là. C'est une réforme psychologique. Ensuite, en ce qui concerne le drame de Nice, on a su sécuriser pendant l'Euro les fan zones.
Les fan zones et les stades.
Et les stades, on a su. Mais on a déployé des forces de police qui, bien évidemment, ne pouvaient pas être déployées par la suite, vu les temps de repos, la fatigue, etc., ailleurs. On a laissé des hommes et des femmes se rassembler par milliers à Nice, dans les conditions d'une fan zone, alors qu'on les a protégés, ces fan zones, sans protéger ces milliers de personnes. Il y a donc un abandon, mais une non-assistance.
Gilbert
et c'est
Collard,
la faute
ce qui s'est
du
passé...
préfet, donc du gouvernement, et de la municipalité qui n'a pas pris les mesures, puisqu'elles sont coordonnées entre le préfet et la municipalité.
Serge Federbuch, vous avez entendu Gilbert Collard. Pour vous, Hollande et Valls ont une part de responsabilité dans l'attentat du 14 juillet à Nice ?
Mais évidemment. Alors d'abord, je veux revenir sur un ou deux points. Ce n'est pas la droite qui a conspué Valls, ce sont les Français. D'accord. On n'a pas demandé les cartes d'adhésion de tout le monde. Enfin, tout ça ne tient pas la route. Ce sont les Français, c'est le peuple, c'est les gens qui étaient là et qui ont été vraiment ulcérés. Deuxièmement, avant l'interruption publicitaire, ce que je voulais dire, c'est que il y a une espèce de dégradé, vous voyez, entre l'islam et l'islamisme. La frontière est poreuse et on peut progressivement, parce que on considère que les koufars, les mécréants, finalement, sont des sous-hommes, arriver à l'idée qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer ou de critiquer par exemple Mahomet ou le prophète et que donc, comme les frères Kouachi, ils sont légitimes ensuite à tuer ceux qui les critiquent ou qui les caricaturent. Et le fait que Valls et Hollande, pour répondre à votre question, soient faibles, et tout le Parti Socialiste d'ailleurs, et une partie d'ailleurs de la droite aussi, soient faibles vis-à-vis des éléments les plus radicaux, et c'est pas seulement ceux qui tuent, c'est ceux qui effectivement embrigadent la population, mettent des voiles, qui les recouvrent de la tête aux pieds, etc., eh bien, comme on ne met pas de barrière étanche, comme on n'est pas ferme, eh bien, progressivement, on se place dans une situation où des déséquilibrés, on crée des conditions psychologiques où des déséquilibrés peuvent passer à l'acte. Celui qui a tué à Nice n'était pas visiblement quelqu'un qui, depuis très longtemps, fréquentait les mosquées salafistes.
C'était même a priori récent.
Voilà, bon. Mais... qu'est-ce qui tue finalement ? C'est que, il y a des tas de gens déséquilibrés dans la société, vous voyez, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Mais quand vous avez une espèce de légitimation, j'emploie un mot un peu sophistiqué, mais de légitimation psychologique, politique et religieuse, qui vous décomplexe quand vous passez à l'acte, quand on vous place dans une situation communautaire où on dit que vous faites partie d'une sorte d'élite, donc qui suit le prophète et que les autres ce sont des mécréants et finalement des dhimmis ou des sous-hommes, eh bien, vous créez les conditions psychologiques, politiques et humaines du fait que les dérapages sont possibles. Et ça sera la même chose en Allemagne et ça va se reproduire.
Serge Federbuch, vous avez entendu Gilbert Collard. Il a dit que la responsabilité était sur le préfet pour l'attentat de Nice, donc le gouvernement, et sur la mairie. Est-ce que vous auriez la même approche ? Que également, il y a une part de responsabilité du côté des autorités municipales de la ville de Nice ?
Je pense qu'il y a des responsabilités multiples. Il ne faut pas non plus s'emballer. Il y aura une enquête. Il faut voir exactement comment ça s'est passé. Moi, je crois qu'il y a quand même un truc très gênant dans toute cette affaire et qui renvoie à ce qui s'est passé au Bataclan ou même chez Charlie Hebdo. Je vous le disais, Charlie, la cible la plus visée en Europe par les djihadistes, un policier pour les garder. Le Bataclan, 3 heures avant d'intervenir, là, il y a eu la commission d'enquête parlementaire, l'inertie finalement des forces de l'ordre a été pointée du doigt par un ou deux héros qui ont failli y passer en prenant sur eux d'aller à l'attaque. Finalement, on entend de plus en plus dire que le GIGN ou ailleurs, il y a eu des gens qui, par couardise, des autorités qui n'osent pas en fait prendre sur eux pour aller à l'affrontement. Et là, il semblerait aussi que quand le camion a commencé à pénétrer sur la promenade des Anglais, moi je connais très bien les lieux parce que mes parents ont vécu 17 ans à Nice, j'ai grandi en parti là-bas. J'ai assisté à des feux d'artifice merveilleux à la fin des années 70, le 14 juillet.
Ah, c'est sûr que les feux d'artifice sur la promenade des Anglais dans la baie des Anges sont magnifiques.
Ce sont, à mon avis, parmi les plus beaux de France. Je ne veux pas être méchant pour les autres. Donc, évidemment qu'il y a énormément de monde. Bon. Mais quand on arrive à cet endroit par l'Enval ou par le boulevard Gambetta, etc., bon, d'après ce qu'on a su, le camion a commencé à s'engager et les policiers qui étaient là ont tiré derrière parce qu'ils n'ont pas osé lui tirer directement dans la cabine pour l'arrêter immédiatement. Parce qu'ils sont évidemment dans une logique où ils craignent ensuite les procès si jamais ils ont eu affaire simplement à un gars qui était en état d'ébriété ou quoi ou qu'est-ce. Donc, même chose qu'au Bataclan, où on n'ose pas entrer.
Au Bataclan, je vous coupe, il y a eu un rapport parlementaire qui a dit que les flics qui sont arrivés ont demandé leur FAMAS, parce qu'on est quand même plus efficace avec un FAMAS face à une Kalachnikov qu'avec une arme de poing, et que les militaires ont refusé de leur donner parce qu'ils respectaient la règle.
Mais évidemment, mais enfin tout ça, c'est un pur délire, vous voyez. Bon, vous avez des
mais
gens qui
réalité.
Sont assassinés. Oui, mais il faut, quand la réalité délire, il faut faire que la réalité ne délire plus. Parce que quand vous avez 130 morts, puis maintenant ensuite 84, on est véritablement dans une situation qui est absurde. Si elle est absurde, c'est parce que les textes sont absurdes, c'est parce que l'organisation de l'État est absurde. Il faut que l'État fonctionne, remette l'État sur les jambes et qu'il ne marche plus sur la tête. Hollande et Valls font marcher l'État sur la tête. Donc il faut qu'il y ait un minimum de capacité, c'est même plus un climat, parce que vous avez toujours des textes qui vous disent « attention, mettez pas un pied devant ». Bon, quand vous entendez, si vous voyez des gens qui se font massacrer, et même si vous n'avez pas l'autorisation et le feu vert de votre hiérarchie, ben vous intervenez. C'est d'avoir mis en place ce climat, d'avoir transformé en rond de cuir, en bureaucrate de deuxième zone, des militaires qui sont censés normalement intervenir en se portant au secours de gens qui sont menacés dans leur vie de manière immédiate, c'est ça finalement la plus grande faute de Hollande et Valls. C'est de tout leur système. Bon, quant au préfet, bon, je connais un petit peu l'administration pour des raisons diverses et variées. Vous savez, les préfets, comme disait Chevènement il y a ça fort longtemps, ce sont des notaires en costume d'amiraux. Ce ne sont plus bons, c'est des gens qui ne comptent plus. Il n'y a plus d'autorité là-dedans. Ce sont les laquais du ministère de l'Intérieur et ils sont aux ordres des politiciens locaux. Voilà, c'est un lampiste, ça change peu de choses. C'est le système qui défaille, c'est le système qu'il faut réformer de fond en comble. Et c'est ça, en fait, qui pose problème.
Serge Federbuch, Gilbert Collard, vous restez avec nous, je vous réserve quelques arguments dans quelques instants.
Sud Radio. Seul contre tous. Seul contre tous. Philippe David.
On ne doit pas siffler les autorités lors d'un hommage national. C'est l'idée que je défends aujourd'hui dans Seul contre tous sur Sud Radio. Et face à moi, j'ai Gilbert Collard, député Front National du Gard, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine et membre du bureau politique du Front National. Et Serge Federbuch, président du Parti des Libertés et auteur du livre La Marche des Lemmings ou La Deuxième Mort de Charlie aux éditions XL. Vous pouvez voter sur sudradio.fr, appelez le 0826-300-300, où nous avons un second auditeur, Jacques, qui nous appelle d'Albi. Jacques, bonjour.
Oui, bonjour.
Contrairement à Frédéric, qui nous appelait de Bordeaux, je crois qu'avec vous, j'ai un défenseur.
Ah ben absolument, absolument. Défenseur, pas en particulier du gouvernement, mais je suis stupéfait d'entendre vos deux interlocuteurs, celui que vous avez sur le plateau, et Maître Collard, que je connais par ailleurs, qu'on voit dans certaines émissions, les grosses têtes en particulier. Bon, en le connaissant, en sachant son positionnement politique, je comprends qu'il soit opposé au gouvernement, mais se servir de ce qui s'est passé à Nice pour cracher sur le gouvernement, le Premier ministre et tous ses acolytes en particulier, ça me semble d'une bassesse et d'un niveau. Et alors, je voudrais parler, parce qu'il y a tellement de choses à dire, de la personne que vous avez en face de vous sur le plateau. Je ne sais pas qui représente ce monsieur, quel parti politique en particulier
le Parti des Libertés. C'est un parti libéral.
Quel parti politique en particulier il défendrait. parce que son positionnement me semble un peu particulier. Alors, il représente qui lui-même ? Il écrit pour qui ? Il serait content que, si un autre gouvernement devait venir au pouvoir, qu'il nous dise qui il défendrait dans une prochaine élection présidentielle, qu'on sache un peu sa manière de penser et son idéologie.
Alors,
elle me semble plus près du Front National.
Ah ben il a dit qu'il n'en était pas, mais Jacques, je vais faire réagir mes deux invités, voilà. Gilbert Collard et Serge Federbuche, merci de votre appel.
Voilà, passez-moi, si je pouvais discuter avec l'un des deux.
Ah ben vous pouvez discuter, dès lors que ça se passe de manière courtoise, il n'y a aucun problème.
Mais oui, il n'y a pas de problème.
Qui veut commencer, Serge Federbuche ou Gilbert Collard?
Je vais essayer de vous rassurer, cher monsieur.
Ah ben justement, écoutez-le Jacques.
Bon, alors d'abord, j'étais élu parisien, je préside un parti qui est un parti libéral et donc qui défend les libertés publiques. Et quand même, une des premières des libertés, vous voyez, c'est de pouvoir marcher sur la promenade des Anglais ou d'aller écouter un concert de musique sans se faire assassiner et mourir dans d'atroces violences. Bon, ça, il faut quand même pas le perdre de vue. Deuxièmement, donc cet engagement politique me conduit aussi, je vais prendre l'exemple du voile sur lequel il peut y avoir un paradoxe à se dire libéral, vous voyez, et dire qu'on est favorable à l'interdiction du voile à l'hôpital ou dans les universités. Mais il faut bien voir que la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Si vous imposez par votre comportement une vision de la société, une lecture de la société ou un rapport, ou par exemple vous refusez de serrer la main des femmes quand vous êtes un homme, ou vous refusez d'être vu, c'est l'essence du voile quand même, quand vous êtes une femme, par les hommes. Ça empiète sur la liberté des autres. Et quand vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas refuser le contact, par exemple un patient ne peut pas refuser le contact avec celui qu'il soigne ou un professeur avec celui qui l'écoute et qui lui pose des questions, eh bien la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et donc c'est en tant que libéral que moi je me dresse contre effectivement les empiètements sur la laïcité que le gouvernement tolère depuis des années. Bon, alors mes opinions politiques, elles sont celles de quelqu'un justement qui met la liberté au-dessus de tout. Notre liberté est menacée par le nivellement que les sociétés. Moi, je ne suis pas du tout socialiste, c'est sûr. Il faut voir, par exemple, que l'islam et l'islamisme, vous voyez, pour vous faire comprendre un petit peu comment j'analyse les choses, c'est un peu comme le socialisme et le communisme. C'est-à-dire que vous avez une doctrine qui prône une certaine forme d'égalité, etc., et qui est fondée quand même sur une forme d'envie sociale et qui, au bout d'un moment, ne fonctionne pas. Ça, c'est le socialisme. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez immédiatement des gauchistes ou des communistes qui se développent et qui critiquent les socialistes en disant que si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'ils sont trop mous. C'est parce que ça ne va pas jusqu'au bout. Ce sont des dogmatiques. Eh bien, l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez des gens qui disent « ben voilà, il faut aller plus loin ». Dans la rigueur, la bigoterie et l'encadrement des populations, parce que c'est comme ça qu'on va faire marcher l'islam et c'est comme ça que tout le monde marchera ou pas. C'est la même chose que le communisme et le socialisme. Donc voilà le fond de mon positionnement politique, si ça peut vous rassurer. C'est un positionnement libéral, c'est un positionnement qui respecte les droits de l'homme et les vrais et qui ne confond pas, vous voyez, la proie et l'ombre, et qui ne se laisse pas entortiller par un gouvernement qui est en fait communautariste et clientéliste. Moi j'appelle Valls, où bon, j'étais élu parisien, je connais bien le système parisien de Delanoë ou d'Hidalgo maintenant, j'appelle ça la gauche coquelicot, c'est-à-dire la gauche communautariste, clientéliste et qui fait de la communication. En fait, c'est la gauche coquelicot qui est à la manœuvre dans cette partie-là. C'est la gauche coquelicot qui fait du clientélisme avec les logements sociaux, avec les subventions, avec les associations, depuis des décennies, la politique de la ville, qui alimente la bête, qui alimente la machine à détruire, qui alimente les ennemis de la France, de la laïcité et de la République. Et c'est parce qu'ils ont un intérêt politique à le faire, et c'est en ça qu'ils sont coupable. François Hollande a été largement élu, il faut dire les choses comme elles sont, il y a eu un sondage sur 10 000 personnes qui a été fait après son élection 2012, grâce aux voix des musulmans. Et du coup, il fait très attention, et c'est pour ça qu'il ne se dresse pas de manière suffisamment ferme contre les éléments les plus extrémistes chez les musulmans. C'est par des petits calculs politiciens. Alors comment voulez-vous ensuite qu'on puisse accepter, qu'on puisse finalement avoir la moindre bienveillance vers des gens dont la politique, les petits calculs politiciens aboutissent à la mort de 250 personnes dont beaucoup d'enfants et d'adolescents. C'est impossible. Voilà, c'est tout.
Serge Federbuche.
J'espère que j'ai répondu à vos attentes et à vos questions, cher monsieur.
Ça téléphone beaucoup. Je vais faire réagir Gilbert Collard également. Gilbert Collard, vous n'avez pas profité quand même de l'attentat pour régler des comptes avec le gouvernement, comme l'a dit notre auditeur d'Albi, Jacques.
Mais nous, comment peut-on dire que ce sont des membres du Front National qui ont sifflé Emmanuel Valls ? Il faut être complètement fou
ou avoir l'oreille politicarde absolue pour détecter un sifflet du Front National, d'un sifflet des Républicains. Je voudrais dire à votre auditeur, que je respecte hein, dans son propos, qu'il a eu un mot terrible dont il n'a pas mesuré la portée. Il a parlé de bassesse. S'est-il seulement demandé si parmi les gens qui sifflaient, il n'y avait pas la mère, la grand-mère, le grand-père, le père, un proche d'une des victimes? Voilà. La seule question qu'il faut se poser. Et si d'avoir sifflé valse à ce moment-là, ça a évité un sanglot intérieur, le ministre doit l'accepter. Il y a aussi une spontanéité de la réaction populaire qu'il faut accepter quand on est un homme d'État. Et je crois que vouloir politiser cette réaction, c'est vouloir quelque part introduire de la politique dans un malheur qui a pris une forme très ancienne dans la vie des peuples. On crie son mécontentement et on a le droit de le crier. Sinon on est en dictature, la dictature de la vertu, comme l'a voulu Robespierre. Personne ne doit lever la voix contre moi. Personne ne doit me critiquer. Personne ne doit me siffler.
Ça s'appelait non, Gilbert, Gilbert Collard, le culte de l'être suprême de mémoire.
Qui peut dire qu'il y avait dans la foule, s'il y avait la mère d'un enfant mort, a-t-elle le droit au terme de bassesse?
Gilbert Collard, Serge Federbuch, on a David, un autre auditeur qui nous appelle et qui pense lui aussi qu'on ne siffle pas pendant une cérémonie. David, bonjour.
Oui, bonjour Philippe et bon, bonjour tout de même à vos invités. Oui, parce que moi je me permets de dire que non, on ne siffle pas durant une cérémonie, parce que je vais prendre un parallèle. Donc depuis le 14 juillet, malheureusement, la promenade des Anglais est devenue un chant de martyrs. Et il me semble, d'ailleurs moi j'étais dans le même cas, il me semble que M. Collard s'est insurgé de la présence de Black M à Verdun, et s'est aussi un peu insurgé de la cérémonie pitoyable que l'on a eue avec François Hollande et Mme Merkel. Et moi je trouve que les réactions, même si c'est des réactions de tristesse des sifflets, n'avaient pas leur place sur un champ de martyr. Qu'on siffle Emmanuel Valls, s'il s'est rendu à la mairie de Nice, pas de problème, si à l'aéroport, pas de souci, mais pas sur un champ de martyr. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais dire. Voilà. Ensuite, bon, effectivement, apparemment, il y avait plus de 40 000 personnes sur la promenade des Anglais. Il ne me semble pas qu'il y avait 42 000 siffleurs, pour avoir vu les images et entendu. Il y avait une poignée, donc on se permettra toujours de douter, à tort ou à raison, que ces sifflets étaient instrumentalisés. Voilà, ça c'était la deuxième chose. Et la troisième, je trouve dommage que votre débat, qui était un débat très intéressant, qui permettait d'aller au fond des choses, dérive sur un peu tout et n'importe quoi. Alors je veux bien qu'on passe à l'antenne pour faire de la propagande politicienne, mais bon, il y a des limites. Et ensuite, dernière chose, c'est pour revenir au Bataclan et aux militaires, j'aimerais que vos deux invités, je ne sais pas s'ils savent ce que c'est que d'avoir entendu siffler une ou deux balles à leurs oreilles, ou s'ils savent ce que c'est que de s'être retrouvés sur un lieu de guerre. Je pense qu'ils y auraient réfléchi à deux fois. Et j'aimerais savoir quelles auraient été leurs réactions si la patrouille de l'opération Sentinelle était rentrée au Bataclan et si l'utilisation de leur FAMAS avait fait des victimes collatérales. Voilà, tout simplement.
Merci beaucoup, David. Je vais faire réagir Serge Federbuch pour commencer. Serge Federbuch, vous avez entendu David. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ?
Bien, donc il y a plusieurs éléments qui sont intéressants dans ce qu'il dit. Alors je crois que d'abord les gens qui se font siffler, je crois pas du tout. J'ai regardé moi aussi l'enregistrement, les divers enregistrements qui circulent sur Internet. C'est pas la majorité, mais c'est un nombre très important. Vous savez, il n'y a pas de sifflomètre qui a été mis au point par une entreprise quelconque pour savoir quel est le pourcentage immédiat, vous voyez, de gens qui ont sifflé. Mais enfin, il est clair que c'est pas une poignée de gens qui ont sifflé, c'est vraiment une bronca. Donc ça, personne n'aura jamais une vérité scientifique sur le sujet, mais c'est très clairement une bronca. Et d'ailleurs, si c'était pas le cas, vous croyez que Manuel Valls là serait en train de se plaindre et de piailler et de pleurnicher en disant oui c'est pas bien, ils sont pas gentils avec moi, et jouer au Calimero? Mais pas du tout, c'est bien parce que ça a été massif, parce qu'il le sait bien, qu'il le sent bien. Bon, deuxièmement, les gens sifflent et réagissent là où ils ont en fait les responsables selon eux des drames en face d'eux. François Hollande a pris grand soin de pas se montrer parce qu'il est plus prudent et plus malin que Manuel Valls. Donc il se planque, là il est allé observer une minute de silence dans la cour du ministère de l'Intérieur. Là c'est sûr que les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, même si certains d'entre eux au fond d'eux-mêmes auraient bien eu envie de siffler, ça j'en suis sûr, eh bien ne pouvaient pas le siffler. Donc voilà, il faut, au bout d'un moment, vous savez, c'est comme les gens qui veulent casser le thermomètre pour se dire qu'ils n'ont plus de fièvre. Ben c'est pas vrai, il faut qu'effectivement la colère s'exprime, il faut que la température monte, parce que si elle monte pas, eh bien au bout d'un moment c'est le cœur qui est atteint, et là les gens sont atteints dans leur âme, dans leur cœur, et c'est normal qu'ils réagissent. Alors dire qu'on fait de la récupération politicienne, enfin vous savez, moi j'ai vraiment pas envie de faire de récupération politicienne, et j'en fais absolument pas. À ce sujet, ceux qui font de la récupération politicienne, c'est Hollande par exemple, quand il invite tous les chefs d'État après Charlie Hebdo pour jouer au kéké, comme on dit dans le sud, hein, puisque là on est dans le sud, et ben j'utiliserai une expression,
ça se disait aussi dans l'armée.
Voilà, pour jouer au kéké avec d'ailleurs une bande de bouchers historiques, et pour faire leur mini défilé bien à l'écart de la foule en faisant croire qu'ils étaient au milieu de la foule et à la tête de la foule. C'est ça la récupération. Là, des exemples de récupération, on en a beaucoup, mais c'est certainement pas des gens qui finalement essaient de comprendre pourquoi le peuple est en colère et pourquoi le peuple souffre et pourquoi il a besoin de s'exprimer.
Serge Federbuche, avant de donner la parole à Gilbert Collard, on va faire un point avec Fabien Tacquart-Blanchin sur Internet. Je crois que vous êtes très convaincant, messieurs, parce que vous êtes toujours largement devant moi, n'est-ce pas ?
Oui, 65%, chers auditeurs, vous êtes très majoritaires.
Ça vote beaucoup.
À être en désaccord avec Philippe David sur ce postulat. On ne siffle pas les autorités lors d'un hommage national, comme ça a été le cas pour Manuel Valls, autour de la minute de silence à Nice, hier.
On se retrouve après une courte pause.
Sud Radio.
Seul contre tous.
Seul contre tous. Philippe David.
On ne doit pas siffler les autorités lors d'un hommage national. C'est l'idée que je défends aujourd'hui dans Seul contre tous. Face à moi, Gilbert Collard, député FN du Gard, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine, membre du bureau politique du Front National, et Serge Federbuche, président du Parti des Libertés et auteur du livre La Marche des Lemmings ou La Deuxième Mort de Charlie, publié aux éditions XL. Gilbert Collard, vous avez entendu David qui disait on pouvait le siffler à l'aéroport, on pouvait le siffler à la mairie de Nice, on pouvait pas le siffler sur un cimetière.
Mais d'abord, parler de récupération politique, c'est en soi faire de la récupération politique. La réalité, elle est évidente. La foule a laissé exploser sa colère. Elle s'est tue pendant la minute de silence. Et à l'endroit où elle était, dans un moment que personne ne peut contrôler, elle a laissé entendre contre ce gouvernement incapable sa colère. On va organiser maintenant une police des sentiments. Franchement, je m'en fous qu'on ait sifflé Valls. Je participe à votre débat avec plaisir.
Ou même qu'on ait sifflé Hollande le 15 juillet.
Mais je m'en fous complètement. Moi, je pense aux morts. C'est ça le plus important. Et que dans cette foule, où peut-être il y a des parents de victimes, enfin, je voudrais quand même que nos auditeurs qui interviennent y pensent. On a eu un moment de douleur. Ce sont ces sifflets qui sont respectables. C'est le peuple qui, à un moment donné, a exprimé sa détresse, son sentiment d'abandon. Mais le gouvernement, aujourd'hui, est désemparé par ces sifflets dans un moment aussi symbolique. Parce qu'il manifeste que la propagande d'État qui a été organisée autour du faux-semblant du vivre-ensemble, du faux-semblant propagandiste à la tête de cette propagande, M. Hollande, en chef d'orchestre, voulant nous faire croire qu'il y avait une unité alors qu'elle est brisée par ceux-là même qui nous dirigent et qui continuent à la briser en faisant une exploitation éhontée de cet événement.
Mais Gilbert
Collard, il y avait les bons Français qui ne
sifflent
pas,
Collard,
Gilbert, et les mauvais Français qui sifflent.
Gilbert Collard, vous parlez de ceux qui nous dirigent. Je vais faire réagir parce qu'il nous reste à peu près un peu plus de 4 minutes. Vous d'abord et ensuite Serge Federbuche, ceux qui nous dirigent. Quand même, les attentats, c'est pas uniquement de la faute de Hollande et Valls. Vous avez certainement vu Nicolas Sarkozy l'autre jour à la télévision. C'est quand même sous Nicolas Sarkozy président qu'on a baissé les effectifs de la police et de la gendarmerie de 13 000 personnes.
Et qu'on a supprimé la double peine.
Et qu'on a supprimé la double peine. Donc, vous dites ceux qui nous dirigent, mais il n'y a pas que ceux qui nous dirigent aujourd'hui qui sont responsables.
Ceux qui nous dirigent, vous avez raison, il y a une totalité de responsabilité, c'est bien évident. Vous avez raison.
Et c'est quand même bien Nicolas Sarkozy qui a validé le livre blanc de la défense, qui faisait passer l'armée de 271 000 hommes à, et qui en baissait de 46 000 hommes pour atteindre 225 000, de mémoire.
Oui, il a supprimé 2 000 douaniers et 54 000 militaires.
Oui, aussi, oui, c'est ça. On peut parler des douaniers.
Et 12 500 policiers. Mais cela étant dit, Hollande n'a pas du tout comblé, comme il le prétendait, le déficit en policiers et en gendarmes. La Cour des comptes l'a très solennellement rappelé.
Oui, et vous, Serge Federbuch, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ceux qui nous dirigent sont les seuls responsables ou ceux qui étaient avant et qui ont quand même taillé à la serpe dans les effectifs de la police, de la gendarmerie, de l'armée, n'ont-ils pas quand même une responsabilité? Et est-ce qu'il ne ferait pas bien d'être un peu plus discret dans ce domaine?
Alors, soyons synthétiques. Un, quand Valls se fait huer, c'est au moment précis quand il arrive, et ensuite quand il se redirige vers la foule. Hein. C'est pas au moment de, effectivement, de la minute de silence quand il est immobile.
Donc, on l'avait dit au début de l'émission.
Bon, les gens ont pu réagir à cette espèce de côté où il avançait vers eux. Deuxièmement, là, je vais me séparer, je serais peut-être pas, je dirais, dans une espèce de démagogie ordinaire. Moi, j'ai pas de sympathie particulière non plus pour Nicolas Sarkozy et tout ce qu'il a fait sur le sujet, notamment. Cela étant, il faut bien voir que, en France, à chaque fois qu'il y a un problème, on dit, bon, voilà, il faut recruter des fonctionnaires, ou en tout cas, il faut pas en éliminer un certain nombre. L'État est extrêmement mal géré en France. Il y a beaucoup de sureffectifs. Alors, peut-être ne fallait-il pas autant diminuer dans certaines forces armées ou de police, mais il est nécessaire. C'est aussi qu'on cherche une meilleure efficacité dans ces services-là. Ce qui fait que les gens ont été inefficaces aujourd'hui, et les services de renseignement ont été inefficaces vis-à-vis du terrorisme islamiste, c'est plutôt des questions justement d'organisation, de hiérarchie, d'incitation au renseignement. Vous voyez, par exemple, jamais personne n'imagine de mettre à prix les renseignements. Mettez ça simplement, retrouvez une
reconnaissez, même si vous êtes libéral, que la sécurité et la lutte contre le terrorisme, c'est du domaine du régalien.
C'est du domaine du régalien, mais ça ne veut pas dire que le régalien doit être mal géré. Tout le monde sait, quand vous allez dans des commissariats de police à Paris ou ailleurs, vous voyez bien qu'il y a aussi des phénomènes bureaucratiques. Quand vous allez dans les ministères, au ministère de l'Intérieur, il y a de la bureaucratie aussi. Moi, je ne crois pas que... Je crois que c'est une discussion de marchand de tapis que de dire oui, c'est parce qu'il y a eu 5000 policiers en moins ou 5000 policiers en plus que ça va bien ou que ça va pas bien. C'est une manière de ne pas poser le problème. Ce qui doit être fait, c'est justement de trouver de l'efficacité des services de renseignement et de police. Moi, par exemple, je suis favorable à ce qu'on mette à prix, vous voyez, les informations qu'on peut obtenir sur ces gens-là. Parce que finalement, ils sont comme des poissons dans l'eau, vous voyez, ces terroristes. Quand le gars, par exemple, c'est en Belgique, mais ça peut être le cas aussi en France, il est à Molenbeek, là, à Abdeslam, et que finalement, il y reste pendant des semaines au milieu de tas de gens qui savaient qu'il était là sans jamais être dénoncé. Mais ça serait beaucoup plus difficile pour lui s'il y avait des incitations. Il faut être terre à terre, il faut être pragmatique parfois. Il faut mettre la tête de ces gens-là et leur liberté à prix. Et vous verrez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir 10 000 gars qui vont sillonner la France et qui vont inspecter tous les cabas. Si vous avez des frappes chirurgicales, là où il le faut, sur les endroits qu'il faut et avec les méthodes qui sont efficaces. Il faut davantage de pragmatisme. Donc je suis pour qu'on sorte, là aussi, de la démagogie sur cette question. Alors ensuite, il y a la question plus fondamentale de l'autorité. Oui. Vous dites, ils ont sifflé les autorités. Mais non, justement, ce qui est sifflé, c'est l'absence d'autorité. Ce qui est sifflé, c'est le mensonge. Ce qui est sifflé, c'est la communication
en lieu et place
d'une véritable action efficace.
C'est amusant, Serge Federbuch, de la part d'un libéral. Ce qui est sifflé, peut-être, c'est l'absence de régalien. Merci beaucoup, Serge Federbuch. Merci beaucoup, Gilbert Collard. On fait un dernier point sur sudradio.fr. Fabien Tacquart-Blanchard.
Oui, avec un écart qui s'est creusé, malheureusement pour vous, Philippe David. Les chers auditeurs, vous êtes 68% en désaccord avec Philippe David et donc à penser qu'il était légitime d'avoir sifflé Manuel Valls, lors de cette minute de silence.
C'est la preuve que j'avais deux contradicteurs de choc face à moi.